La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et toute son équipe et son répondeur, et c'est maintenant.
Merci à toi, Daniel, d'avoir parlé de Kylian et de Claude et donc de RFI. Et pour les auditeurs, je voulais leur dire que vraiment, c'est une radio très, très, très intéressante qui, de plus, vous envoie une newsletter tous les jours selon les pays qui vous intéressent le plus, avec lesquels vous avez plus d'affinités, enfin, du monde entier. Voilà. Tenez bon, les amis. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.
Du nord de la droite, rendre hommage aux deux journalistes de RFI assassinés. Et c'est bien normal, d'ailleurs. Je ne vois pas de problème à ça. Mais se souviennent-ils que RFI est la station que leur saint patron, Nicolas Sarkozy, voulait petit à petit, purement et simplement, supprimer du paysage radiophonique français?
Jean-Luc, chauffeur routier en colère. On est quoi? Lundi 4 novembre, 15h09. Alors je viens d'entendre la boîte à messages, j'ai juste pour répondre à l'autre pauvre pomme là, qui dit qu'il faut qu'on paye l'écotaxe, nous autres les poids lourds, pour nous empêcher de circuler sur les infrastructures que les autres payent. Mais mon cher ami, on paye déjà bien assez comme ça. Quand on prend l'autoroute, on paye le prix du péage, 4 fois le prix d'une bagnole. Tu veux qu'on paye l'écotaxe? Il n'y a pas de problème. J'espère bien que quand ça se fera, nos chers employeurs la répercuteront bien sur le prix du transport, et ton kilo de tomate t'ira l'acheter encore plus cher, où les 14 centimes d'euros du kilomètre sont bien fracturés dessus, et c'est toi qui payeras en ligne de compte, le consommateur, c'est toi qui l'auras bien profond dans l'os, cher ami.
Bonsoir, c'est Stéphane de Bretagne. Juste une petite réflexion qui me vient à l'esprit. Comment les gens peuvent-ils être aussi naïfs pour penser que les méchants gros camions vont être les seuls à payer les cotaxes dans quelques temps? Quand ce sera bien mis en place pour les poids lourds, ce sera plus simplement les méchants poids lourds, il va aussi avoir les méchants représentants qui passeront en voiture sous les portiques qui vont payer. Les méchants artisans avec leurs petits fourgons et leurs petites fourgonnettes. Les méchants motards qui passent très vite sous les portiques. Les méchants touristes qui y passent aussi. Et les méchantes personnes qui travaillent encore quelque part dans une quelconque usine perdue dans le fond de la France. Je pense que la finalité totale, effectivement, ça va être ça. Il faut y réfléchir. Si t'es en émission, Daniel existe tout le temps dans les sous-vacances, si ça se trouve, ça aurait été peut-être prémonitoire. Bon courage. Hein.
Bonjour, donc la manif de Quimper, c'était pas du tout une manif d'ouvriers, c'était une manif de patrons, MEDEF local, des transporteurs, Armor Luxe qui en profite pour vendre ses sacrés bonnets rouges, et des licenciés qui défilent derrière les licencieurs, donc faut le faire. Donc il y a eu une autre manif à Carhaix, là que c'était des syndicalistes qui appelaient à la manif, et là on n'a rien entendu par les médias, même France Inter, même Mermet, rien, silence radio, c'est le cas de le dire. Sauf que on a quand même réussi en 3 jours à faire déplacer 3000 personnes, or ils étaient même pas 30 000 de l'autre côté avec tout le battage national qui a été fait pendant toute la semaine. Secondo, il y a eu des exactions faites à Paimpol, donc sans prétexte d'écotaxe et tout. Les types de la FNSEA, ils sont arrivés, ils ont jeté 3 réverbères par terre, ils ont jeté des bancs dans le port, et là, pareil, pas du tout, on n'en a pas du tout entendu parler, ni à la radio, ni à la télé, alors que c'est des actes de délinquance, et on attend toujours les CRS qui viennent les arrêter, qui viennent leur prendre leur ADN, comme on fait avec les syndicalistes. Là, rien, rien, rien. Qu'est-ce qu'il fait Valls, là? Rien du tout, parce qu'il baisse son froc devant les patrons et devant le gros syndicat de la FNSEA. C'est dégueulasse.
Bonjour, j'ai vu à la télévision l'image du portique incendié par les bonnets rouges. Alors c'est choquant, c'est très choquant. Pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? Car quand José Bové coupe du blé transgénique, il est poursuivi. Donc évidemment, on peut ne pas être d'accord, c'est vrai. Mais quand même, c'est mon argent. Excusez-moi les gars, c'est mon argent. Et en plus, cette loi a été votée sous Sarkozy, donc écoutez, je comprends pas. Et il semblerait aussi qu'il y ait beaucoup de monde dans ce groupe de bonnets rouges, beaucoup de tendances. Donc peut-être qu'on peut discuter avant de mettre le feu à des portiques qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Salut, c'était Bernard de Lille.
Bonjour, j'ai un petit message à vous donner. Quelle est la différence entre la banlieue nord et la Bretagne? Quand il y a un soulèvement dans la banlieue nord, on dit que c'est la racaille, des petits voyous, tandis que en Bretagne, c'est... c'est des gens qui cherchent à sauver leur emploi. Moi, j'appelle ça des patrons voyous qui profitent du petit peuple pour faire marcher leurs usines et ils empoisonnent l'Arabie avec de la volaille qui est infecte. C'est des poulets de batterie. On ne peut pas dire que c'est du bon poulet. Alors, soyons un peu corrects et justes. Réfléchissez un petit peu avant de toujours critiquer les médias.
Et des jeunes là, des banlieues, c'est pas des cagoules qu'il faut mettre pour toi les casser, c'est des bonnets rouges. Ouais, ouais, ça passe bien les bonnets rouges, on peut tout faire, on peut tout brûler, on peut même mettre le feu dans la préfecture, les CRS n'arrivent pas. Voilà, c'est la bonne tactique, rangez les cagoules, prenez les bonnets rouges.
En novembre 1943, il y a tout juste 70 ans, que Jacques Duclos, Pierre Villon, et en présence de Benoît Frachon, jetèrent les bases du programme du CNR. Le programme du CNR, véritable processus de dépassement des logiques capitalistes, montre qu'il ne s'agit pas d'être radical, d'extrême gauche, opposant toute sa vie ou dans une pureté révolutionnaire, mais utile à la population en construisant des majorités. Car l'histoire de la gauche, c'est l'histoire de rapports de force. Régis de Nîmes.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Chicago. Chicago, ville magnifique, faites un tour à Chicago si vous pouvez. Cette ville est à tomber par terre de beauté. C'est vrai, j'adore cette ville. Mais on n'est pas là uniquement pour admirer la ville de Chicago. Évidemment, derrière cette beauté, ces façades de verre, ces canyons de buildings magnifiques, il se cache de la misère, de la pauvreté, des inégalités terribles, ségrégation notamment envers les Noirs de Chicago. Tout ça est bien connu, hélas, bien connu. Ce qui nous intéressait, nous, hier, c'est l'invention du 1er mai. Ouais, c'est ici, à Chicago, qu'a été inventé le 1er mai, et on a fait un sujet, un petit peu un pèlerinage, sur l'endroit du massacre des High Market, en 1886, massacre, beaucoup de tués et de blessés du côté des grévistes, mais aussi du côté des policiers. Trois grévistes ont été pendus à cette époque, et le mouvement anarcho-syndicaliste en a été discrédité et a perdu sa puissance politique, disons, à ce moment-là. Mais le 1er mai était inventé. La revendication de base, c'était la journée de 8 heures, c'était la semaine de 40 heures. Voilà, ça s'est fait, c'est né ici à Chicago. On continue la route et aujourd'hui, dans la Basilicie, on retrouve, comme chaque mois, l'équipe du monde diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basilicie au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Jeudi 7 novembre à partir de 19h, café repère au bar chez Sabine, 38 chemin de l'Orme à Grasse. Le thème, comment créer de la solidarité. C'était Brigitte de Moinsartou.
Bonjour à tous. Les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et ses environs se retrouveront nombreux le mercredi 6 novembre au café Le 34. 34 boulevard Gambetta à Nîmes à partir de 19h. Venez nombreux, à bientôt.
Oui, bonjour là-bas si j'y suis. Un petit peu de bruit derrière moi, c'est Ghislaine. Je suis à Roanne pour exiger la relaxe des 5 de Roanne pour le maintien des libertés syndicales parce que le syndicalisme, ce n'est pas la mafia. Voilà. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a la pluie, mais bon, on fait avec. Voilà, on les cœurs.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Alors, nous voilà avec le Monde Diplomatique du mois de novembre. Et alors, on va tout de suite attaquer avec l'avenir. Amazon, la distribution moderne, actuelle et définitive à travers le monde, partout. 89 entrepôts, 62 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 employés, des emplois formidables, non ? Nous qui sommes... enquête d'emploi, 300 articles à la seconde pour Noël 2012 aux États-Unis. 300 articles à la seconde. Voilà, ça c'est l'avenir, c'est Amazon. Et voilà pas qu'un petit journaliste français, Jean-Baptiste Mallet, s'est fait hypocritement engager chez Amazon, sans prévenir, et on a sorti un bouquin chez Fayard l'an passé, qui a fait un certain bruit, et puis est retourné en Allemagne récemment pour le monde diplomatique, pour voir, pour confirmer un petit peu tout ça. Je pense que vous auriez pu aussi aller en Pologne, parce que je crois bien que les salariés allemands sont à moitié contents, mais Amazon va aller vers l'Europe de l'Est. Alors, est-ce que c'est vraiment l'avenir, Amazon ?
L'avenir, oui, mais quel avenir ? L'Allemagne compte 9 entrepôts, et lors de la période de pointe, et c'est en ce moment, Amazon a besoin de tellement de main-d'œuvre que des cars affluent, en fait, de toute l'Europe. Il y a plus de 44 nationalités présentes en ce moment à Bad Hersfeld. Et donc, des employés qui peuvent être espagnols, polonais, vont travailler dans les entrepôts sur 2-3 mois. Et parmi ces employés, on va retrouver des chômeurs espagnols qui peuvent être historiens, avocats, sociologues, donc des gens qui peuvent être diplômés, mais qui se retrouvent dans ces entrepôts. Ce que j'ai voulu montrer dans cette enquête, c'est d'abord ce qu'il se passe derrière l'écran. Mettre des visages sur des clics. On oublie qu'Amazon, ce n'est pas une librairie, c'est un vendeur de livres et qui, plus largement, concurrence tous les commerces de proximité.
Ce qui nous a frappé d'abord, c'est la destruction de la librairie en France, par exemple. La librairie avait réussi à se maintenir. Voilà, ça marchait à peu près. C'était encore quelque chose qui vivait. Et là, ça ferme.
Oui, absolument. En fait, la force d'Amazon, c'est qu'Amazon a des coûts de stockage et de distribution beaucoup plus faibles qu'une librairie, on peut le comprendre. Mmh. Une librairie a des emplois à payer, un loyer, bon, et ce sont des emplois qui vont mêler la manutention, le social. Chez Amazon, nous nous trouvons dans des usines à vendre, donc tout est rationalisé à outrance, le travail est extrêmement pénible, c'est certes de la logistique, mais il y a aussi tout un management très dur, très violent, qui n'a rien à voir avec une librairie. Amazon est un univers anxiogène, parce qu'on est fouillé, il faut le savoir, quand on sort et qu'on entre dans les entrepôts. C'est un lieu où la productivité est enregistrée en temps réel. On est tracé en permanence par des petits scans, puisque tout est relié par Wi-Fi.
Localisé. C'est quoi, à quoi ressemblent ces petits scans ?
Alors, c'est des petites machines qu'on peut maintenant distribuer parfois dans les supermarchés pour faire soi-même ses courses. C'est un lecteur de code-barre, en fait, avec un écran tactile, qui va calculer la productivité et qui va géolocaliser le travailleur en temps réel, et on lui demande d'aller chaque jour plus vite que la veille, puisque grâce à la puissance informatique d'Amazon, tous ces travailleurs sont donc tracés et on enregistre leur productivité. Productivité qui, chaque jour, est envoyée puis stockée à Seattle, aux États-Unis. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc ce sont des intérimaires qui sont renouvelés de semaine en semaine, qui sont absolument épuisés à la fin de la mission, et qui, en réalité, croient longtemps qu'on va leur offrir un CDI, puisque c'est la carotte qui est agitée par Amazon. En réalité, pratiquement aucun n'est titularisé à la suite.
Le sourire sur les colis, c'est nous. Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien. Notre plus grand rêve, créer des choses qui changent votre vie et deviennent ensuite une habitude.
Amazon est souvent présenté comme une chance qui crée des emplois. En réalité, Amazon non seulement ne crée pas des emplois, mais en détruit, puisque le syndicat de la librairie française a calculé, dans une étude très sérieuse, que pour le même volume de livres vendus, Amazon embauche 18 fois moins, et donc va détruire de l'emploi dans le commerce de proximité quand il crée des emplois dans les entrepôts logistiques.
Oui, mais ça, c'est pas que la librairie, ce que vous disiez tout à l'heure.
Effectivement, ce sont tous les commerces de proximité. Quelqu'un qui vend des articles de sport, qui va vendre des articles de cuisine, des marmites en fonte, va être également concurrencé par la vente en ligne.
C'est moins cher.
Pour le client, c'est la même chose. C'est un peu plus rapide seulement. Et puis, c'est enrobé du progrès lisse, de l'écran avec un beau graphisme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce ne sont pas des emplois durables. Dans le reportage en Allemagne, j'explique que de nombreux travailleurs qui étaient pourtant en CDI, au bout de 7, 8, 9 ans, ne tiennent plus le choc. C'est pour ça que la moyenne d'âge, c'est 25, 35 ans. Même ceux qui sont en CDI sont absolument épuisés par les cadences infernales d'Amazon.
Alors, que font les syndicats ? Est-ce qu'il y a des syndicats qui se constituent ? Un contre-feu ?
C'est pour cela que je suis allé en Allemagne. Il se trouve qu'en Allemagne, le syndicat Verdi a construit une syndicalisation forte. Actuellement, les syndicalistes allemands tiennent des piquets de grève, exigent une convention collective.
Voilà pourquoi ils vont partir en Pologne. que Amazon va peut-être partir en Pologne sous, à cause de ça, ou menace en moins, ou menace de...
Effectivement, Amazon pratique sans cesse ce dumping à l'emploi. Il y a cette menace d'ouvrir des entrepôts donc en Pologne et en République tchèque. Il faut savoir que construire une action syndicale chez Amazon relève de la prouesse. C'est un univers extrêmement hostile, et ce que les Allemands ont réussi à faire, c'est déjà un exploit.
En France, que font les autorités, les pouvoirs publics par rapport à ça?
Quand Éric Besson était ministre de l'Industrie, il a accompagné Amazon dans son fief électoral de la Drôme. Quand Arnaud Montebourg, ministre de l'Industrie, est arrivé au pouvoir, il a accompagné pour sa part Amazon dans son fief électoral à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Donc on voit effectivement qu'il n'y a aucune volonté pour les politiques de freiner l'expansion d'Amazon, qui pourtant détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, et on vient de le voir, hein, donc ce ne sont pas des emplois de commerce de proximité, mais en plus effectivement on accompagne Amazon avec des subventions publiques, des aides à l'emploi, alors même qu'Amazon fraude l'impôt et doit au fisc français 198 millions d'euros. Donc Amazon nous doit, nous Français, 198 millions d'euros, et les politiques donnent 1,5 million, 2 millions pour aider les implantations d'Amazon.
Et les syndicats arrivent à s'implanter?
Alors en France, on a un embryon, hein, la CGT est majoritaire maintenant chez Amazon, mais le noyau dur est très faible, parce que Amazon, c'est d'abord des salariés qui sont peu politisés, qui n'ont pour la plupart, hein, aucune conscience syndicale, donc il faut réinventer des outils syndicalistes, non pas en faisant du have fun, hein, puisque Amazon aime bien cette convivialité artistique. Il faut savoir que le slogan d'Amazon, c'est work hard, have fun, make history, donc travaille dur, amuse-toi, écris l'histoire. Donc le piège pour certains syndicalistes, c'est de finalement faire une sorte de course, hein, avec...
Amuse-toi ? Mais qui s'amuse ? C'est vous les salariés qui s'amusent ?
Alors, on propose aux salariés de s'amuser. Je cite, hein, dans le reportage, on va par exemple proposer aux travailleurs de venir travailler déguisés en clown, déguisés en basketteur, déguisés en sorcière, selon le thème fixé par les managers. Pendant ce temps, leur productivité est calculée, on va les fouiller, etc. Mais on leur propose tout un tas de divertissements. À Pâques, on va organiser des chasses aux œufs sur les parkings, il va y avoir des petits concerts, des petits tombolas. Dans les salles de pause, on va mettre des quiz pour gagner un petit cadeau. Toute une convivialité artificielle qui, en fait, réinvente le paternalisme.
La parole est à Madame Isabelle Attard.
Assemblée nationale.
Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail.
30 octobre 2013.
Monsieur le ministre, nous vous demandons de lancer une enquête globale sur les pratiques d'Amazon envers ses salariés, en y associant la CNIL au vu de l'automatisation poussée de l'organisation.
Merci Madame Attard. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin.
J'ai aussi demandé à mes services, et ça me paraît être un élément important, d'être artisan d'un dialogue social au sein de cette entreprise. Car sans dialogue social, sans capacité pour les uns et pour les autres de s'exprimer, du côté de la direction évidemment, mais du côté aussi des salariés, pour pouvoir discuter, il n'y aura pas d'amélioration du climat social. Le respect de la loi d'un côté, c'est le travail de l'inspection du travail. Le dialogue social de l'autre, c'est le travail de mes services, et ainsi cette entreprise pourra effectivement créer des emplois sans pour autant atteindre aux conditions de travail.
Et vous dites que pour entrer chez Amazon, il faut se montrer complètement soumis à...
Alors déjà, il faut physiquement tenir le choc, et ensuite, effectivement, il faut montrer qu'on adhère à la culture Amazon. Je cite dans le reportage, hein, un cas précis qui est celui d'un ancien manager qui a donc suivi des formations au Luxembourg, qui est un ingénieur de formation, qui a travaillé dans l'automobile, qui explique d'abord donc que son expérience chez Amazon a été la pire de sa carrière d'ingénieur, mais également qu'un jour, dans la salle de pause, il était en train de discuter avec des collègues, et il discutait de la fortune personnelle de Jeff Bezos, donc le propriétaire d'Amazon, qui est la 19e fortune mondiale. Et il a dit, tout cet argent, moi ça me donne envie de vomir. Eh bien, il a été convoqué et rappelé à l'ordre pour ne pas avoir respecté la culture Amazon.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qui peut se faire contre ça, dès lors qu'on voit que les syndicats sont quand même assez faiblards? Gilles Balbastre va nous parler du travail du dimanche. Gilles.
Tout à fait. Mais je crois que tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Hein. Je vois, moi, avec le travail le dimanche, la distribution a été quelque chose aussi où les syndicats ont eu du mal à s'implanter, ont toujours du mal à s'implanter, mais on aura l'occasion de parler, où les choses évoluent. Ce nouveau prolétariat, hein, ce prolétariat des services, qui est plus le même, bien sûr, que le prolétariat des usines, de l'industrie, et dans sa gestation, dans sa formation. En Allemagne, il y a apparemment la mise en place d'un syndicat. Je pense que face à cette exploitation, direction, qui est vraiment terrible, et malgré le jeu de propagande de faire croire qu'on n'est pas exploité par la direction, peut se mettre, et se mettra certainement en place, peu à peu, des formes de résistance. Moi, je ne crois pas qu'elles peuvent pas se mettre en place. Peut-être qu'il faut regarder, effectivement, le 19e siècle, la difficulté de mettre des syndicats en place dans des industries, dans des usines. On l'oublie trop souvent, la répression syndicale qu'il y avait, et peu à peu aussi des choses qui se sont faites. Donc, faut pas non plus désespérer sur la capacité des êtres humains, des salariés à se mobiliser à des moments.
Gilles Balbastre ne peut pas désespérer Amazon. Jean-Baptiste Mallet.
Oui, alors je pense que c'est trois échelons. Il y a d'abord l'échelon politique, l'échelon syndical, et puis après, il faut pas l'oublier, même si c'est pas lui qui va changer les choses. Il y a aussi l'achat, le comportement du consommateur. Je dis cela tout simplement parce que 35% des livres
si c'est moins cher et si ça va vite et si je reste chez moi, je commande. Enfin, moi non, mais...
C'est vrai.
Je peux comprendre le consommateur.
C'est vrai, mais 35% des livres en sciences humaines aujourd'hui sont achetés sur Amazon, et j'ai pour ma part, emballé énormément de livres de critique du capitalisme, style de libéralisme, qui est ou parfois, voilà, prenant la démondialisation, la décroissance, acheté sur Amazon. Donc je pense qu'effectivement, ça restera peut-être à la marge anecdotique, mais certains, peut-être, auront envie de changer leur comportement après ces révélations.
Merci.
La parole est à Madame Isabelle Attard.
Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Je profite de cette question pour vous proposer un changement des règles de notre Assemblée. Nous posons nos questions au ministre en 2 minutes. Nos performances ne s'améliorent jamais. Nous semblons incapables d'augmenter notre productivité. Je vous propose qu'à compter de novembre, chaque député dispose d'une seule minute, puis en décembre de 30 secondes. Nous serons ainsi efficaces et productifs. Cela vous paraît aberrant, injuste, tant mieux. Car aujourd'hui, la une du monde diplomatique est consacrée à Amazon, une entreprise à la politique managériale très rigide.
Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurai pas le temps de faire ce que j'aime.
La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin.
Le bilan de compétences en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y'en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer et payé pot de zob.
Cette entreprise est bien connue de mes services pour des raisons d'organisation du travail interne qui mérite effectivement d'être suivi très attentivement.
C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et la fourguer à des pauvres gens avec un peu de pub ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine jusqu'au jour où en arrivant, y a même plus l'usine.
On continue avec le diplôme de ce mois de novembre. Il m'arrive de me dire qu'il faudrait chaque jour enlever une idée reçue que j'ai dans la tête. ce serait du boulot, une par jour, c'est... Il faudrait que je vive très très longtemps pour enlever quelques-unes. Mais là, il y en a quand même une, c'est Machiavel. Mmh. Machiavel, pour la plupart d'entre nous, c'est le machiavélisme, c'est-à-dire des conseils extrêmement cyniques pour diriger, manipuler, assurer le pouvoir sur le peuple. On connaît le bouquin, enfin on a entendu parler du bouquin de Machiavel, Le Prince, dont c'était l'anniversaire de sa publication. Et Olivier Pironel nous dit non, Machiavel, c'est pas le machiavélisme.
Déjà, pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'était l'anniversaire, on a fêté les 500 ans de la rédaction du Prince. Et ce qui est assez intéressant, il faut le souligner, c'est que c'est peut-être un cas exceptionnel, unique, voire exceptionnel dans l'histoire. Le fait que l'on célèbre l'année de rédaction d'un ouvrage et non pas de son année de publication, comme un contrat social ou des ouvrages de référence et qui ont fait date, c'est peut-être lié au fait que Le Prince donc a été publié en 1532 et 3 ans après sa publication, un cardinal théologien l'accuse d'avoir été écrit avec le doigt du diable. Donc moi j'ai voulu partir de cette idée. Puisque c'est vrai que la réputation de Machiavel reste très sulfureuse et associée à l'idée de cynisme, à l'enseignement des techniques de manipulation et de domination, à l'endroit des gouvernants. Et puis, Machiavel donc a été plus ou moins réhabilité, d'abord avec Spinoza, puis ensuite avec Rousseau, qui en font un penseur profondément républicain. Mais c'est vrai qu'on entretient toujours... cette idée que Machiavel est celui qui murmure à l'oreille des tyrans et qui conseille les gouvernants. Donc déjà, il fallait montrer que Machiavel n'est pas un technicien du pouvoir, mais véritablement un théoricien de la liberté, du pouvoir populaire et en plus
du pouvoir populaire.
Quand il s'agit de définir le meilleur régime possible en République, Machiavel estime que le meilleur régime possible doit être une République démocratique. Et c'est ça, paradoxalement, qui a choqué le plus ses contemporains et ceux qui ont suivi immédiatement. C'est non pas le prince, mais c'est le fait que justement, il estime que le meilleur régime républicain possible doit être fondé sur la souveraineté populaire. Et pour parvenir à cette souveraineté populaire, il faut savoir utiliser des techniques de gouvernement, renverser un gouvernement, prendre le pouvoir, et ensuite le maintenir durablement en prenant en compte les conseils qu'il adresse à ceux qui veulent pouvoir gouverner. Et ceux-là ne peuvent être que la classe populaire.
Francesca Maria Benvenuto, vous allez nous parler de tout à fait autre chose, vous allez nous parler de la Cour pénale internationale, mais vous êtes italienne, quand on dit Machiavel en Italie...
On pense en fait à la citation la plus célèbre, qui est, voilà, c'est même, je pense, un malentendu de base qu'il y a par rapport à Machiavelli, qui est donc la fin justifie les moyens. Voilà. Et c'est ça. Donc on cite toujours ça, même pour en fait juste justifier des choses qui ne sont pas justifiables du tout, et surtout au niveau politique, malheureusement.
Oui. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'on a, il y a un peu deux niveaux quand on pense aux politiques. Il y a le niveau moral, qui est un peu ce qu'on a tous en commun, et puis il y a la stratégie. Et la stratégie ne fait pas toujours bon ménage avec la morale. Les idées, les principes, les utopies, les rêves qu'on peut avoir, ou les aspirations tout simplement à la justice, à l'égalité, etc., pour rentrer, pour se concrétiser, pour s'exercer, pour exister, passe par des procédés qu'on peut appeler la politique tout simplement, et qui sont pas toujours en cohésion avec notre morale ordinaire.
Alors, la nouveauté introduite par Machiavel à l'époque, c'est que lui s'inspire donc des miroirs princiers, qui sont des ouvrages didactiques en vogue à la Renaissance, et qui enseignent aux gouvernants les règles d'action qu'ils doivent respecter, et qui s'appuient essentiellement sur la morale classique. Or, Machiavel distingue deux champs, celui de la morale et celui de la politique, et c'est vraiment lui qui a autonomisé la politique par rapport à la morale. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas agir moralement, il dit simplement que la morale n'a pas prise sur la politique, qui obéit à des règles spécifiques. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Francesca, on dit souvent que Machiavel, on résume en disant, voilà, la fin justifie les moyens. C'est pas n'importe quelle fin et pas n'importe quel moyen. Mais la fin ultime, c'est la liberté, la République, et encore une fois, une République à caractère démocratique. Il n'utilise pas le terme démocratique, il utilise le terme de gouverno popolare.
Lire Le Prince aujourd'hui, c'est utile?
Alors, c'est utile.
Est-ce que c'est utile dans nos vies? Je parle pas de la vie des journalistes et des chercheurs, mais de la vie.
Oui, c'est utile parce que déjà, ça nous renseigne sur l'époque à laquelle il appartient. Il faut quand même rappeler, s'agissant du prince, d'abord que le prince a été mis à l'index dès 1559 par l'Église catholique, et que l'ensemble de ses œuvres ont été interdites jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc elles circulaient quand même sous le manteau, en Angleterre, en France, elles étaient connues d'un cercle de spécialistes, mais son ouvrage est quand même resté interdit. C'est l'ensemble de ses œuvres, de son œuvre, est resté interdite pendant plusieurs siècles. Ce qui est encore une fois un cas assez unique dans l'histoire.
Merci Olivier Pironet, Machiavel contre le machiavélisme, et dans le diplôme de ce mois de novembre.
Mes fins ne sont pas énormes, mais mes moyens sont réduits, comme ceux de ceux que je soutiens. Pour ma part, je m'instruis, aucune lamentation, parler c'est rien, agir c'est bien, avec une fin qui, elle, justifie les moyens. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. La fin.
Alors, on continue avec le diplôme du mois de novembre, avec Francesca Maria Benvenuto, qui veut nous intéresser à la CPI, la Cour pénale internationale, qu'il ne faut pas confondre avec le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie ou pour le Rwanda. Comment ça fonctionne et quelle est l'histoire de cette Cour pénale internationale, qui quand même a l'air plutôt d'être très exigeante et de juger les ressortissants et les délinquants des pays pauvres, quand même.
La Cour pénale internationale est un tribunal pénal international sans président, donc complètement différent par rapport aux autres tribunaux. Et bien, pourquoi ça? Parce qu'en fait, elle a une compétence plus étendue que les tribunaux pour Yougoslavie et pour le Rwanda, qui ont une compétence limitée au territoire des pays concernés par les crimes jugés par les tribunaux. Et la Cour a tout à fait aussi une compétence permanente à la différence des compétences des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qui ont une compétence temporelle limitée, même s'ils sont encore en fonction maintenant. Et la Cour est un tribunal sans précédent parce qu'elle a aussi un mécanisme d'activation et un mécanisme de juridiction complètement particulier qui s'appelle le mécanisme de complémentarité, le régime de complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que la juridiction de la Cour est complémentaire par rapport aux juridictions étatiques. Donc ça veut dire que la Cour, elle peut juger uniquement si l'État ne veut pas juger, donc ne veut pas poursuivre les auteurs potentiels des crimes, ou ne peut pas le faire à cause donc d'une incapacité totale ou partiale du système juridique.
C'est né quand ? C'est né en 2002, cette histoire ?
Oui, c'est en 2002. 2002, c'est l'entrée, en fait, la date d'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale, et elle peut juger, en fait, toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes internationaux, mais après l'entrée en vigueur, donc après juillet 2002.
Mais qui dépose plainte ?
Il n'y a pas de plainte, donc ce n'est pas comme un tribunal national. Elle peut être saisie uniquement par soit les États partis au statut, qui sont 122 maintenant, soit par le Conseil de sécurité de l'ONU, agissant en vertu de la charte de l'ONU, et voilà, et ça, on verra, ça suscite beaucoup de méfiance, soit directement à l'initiative motu proprio du procureur.
Dites-nous, qui a été jugé devant cette Cour depuis 2002. Citez-nous des exemples de personnages ou de cas.
Devant la Cour pénale internationale, on n'a eu qu'une condamnation pour l'instant. C'était en mars 2012 à l'encontre de Thomas Lubanga. Donc c'était la situation en République démocratique du Congo qui a été jugée et condamnée pour crime de guerre pendant le conflit.
À l'annonce du verdict, le chef de milice congolais mis en cause, Thomas Lubanga, ici en tunique blanche,
France 24,
reste impassible.
14 mars 2013.
La Chambre a conclu à l'unanimité que l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Thomas Lubanga est coupable de crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et les a fait participer à un conflit armé. Les autorités congolaises avaient transmis Lubanga à la Cour il y a 6 ans. La décision de la CPI est aujourd'hui saluée comme une victoire par les associations de défense des droits de l'homme.
Est-ce que la Cour pourrait juger, je ne sais pas, par exemple, George Bush par rapport à l'offensive d'Irak, par exemple, c'est possible ?
Alors ça, c'est une question intéressante. En premier lieu, il faut remarquer que la Cour peut juger les chefs d'État, même en fonction, chefs de gouvernement en fonction. Donc, la personne ne peut pas utiliser le bouclier de sa qualification officielle pour...
Il n'y a pas d'immunité.
Non, il n'y a pas d'immunité. Il y a la chute des immunités. Par contre, il faut remarquer qu'il y a quand même deux conditions à remplir pour que la Cour s'active. Donc, que l'individu est ressortissant dans des États partis au statut de Rome, soit que le crime a été commis sur le territoire d'un État parti. Donc, par rapport à l'Irak et à George Bush, alors là, je me permets de dire non, parce que c'était un chef d'État, mais c'était un chef d'État des États-Unis, qui ne sont pas partis actuellement et qui n'étaient pas partis au statut de Rome. Le statut de Rome, pardon, c'est le statut de la Cour pénale internationale qui s'appelle Rome, parce que c'était signé à Rome.
Ah, les États-Unis ne font pas partie des 122 États signataires. Ah bon, ils sont prudents.
Ah non. Et ben oui, bien sûr. Et en fait, c'est même pour ça que la Cour fait l'objet de plusieurs critiques, et c'est surtout pour et à cause des aspects politiques et intrinsèques de la Cour.
Israël en fait partie.
Israël non, fait pas partie.
Les États-Unis, Israël, bon,
Syrie,
ça fait déjà deux.
Voilà, il fait pas partie.
La France fait partie.
Bah oui, la France oui fait partie, même l'Italie, voilà. Et le Conseil de sécurité, on a dit qu'il peut activer la Cour. Eh bien, il a donc un droit de vie sur une Cour, mais surtout, il a un droit de mort. Ça veut dire que parfois, agissant en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut même suspendre les enquêtes, donc l'intervention de la Cour. Et ça nous inquiète encore plus parce que 3 membres du Conseil de sécurité permanent, donc qui ont le droit de veto sur les décisions du Conseil de sécurité, ne sont pas partis au statut de la Cour pénale, comme par exemple les États-Unis, la Russie ou bien la Chine.
Ah. Voilà. Francesca, je ne comprends pas tous les termes juridiques que vous employez, très franchement. Non. Les auditeurs, je suis sûr, comprennent, mais pas moi tout à fait. Mais le mot défiance, là, est de rigueur. Au fur et à mesure que vous expliquez les choses, ma défiance augmente vis-à-vis de cette Cour pénale internationale. À quoi ça sert ?
La Cour pénale internationale devrait donc servir à mettre...
De vrai,
oui, je dis de vrai, et je vous explique après pourquoi, en fait, parce qu'il faut comprendre les limites de cette Cour. La Cour devrait lutter contre l'impunité. Donc, contre l'impunité internationale, ça veut dire lutter contre les crimes les plus graves, et donc on parle de génocide, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, et devrait donc mettre un frein permanent à la violence globale aussi. Et ben ça, en fait, lorsqu'on parle de Cour pénale internationale, de justice pénale internationale, on se fait parfois trop conduire par les passions, par l'émotivité, et donc on comprend pas trop les limites intrinsèques de la Cour pénale internationale. Et je vous ai cité donc des limites, qui sont des limites des aspects même politiques, et des aspects donc qui conduisent la Cour pénale internationale, et surtout l'accusation, donc le procureur, et celui qui mène les enquêtes, les poursuites, etc., il lui impose en fait une prudence diplomatique à l'encontre de certaines affaires, comme par exemple la Palestine et donc les crimes commis par les Israéliens, ou comme par exemple c'était le cas de l'Irak, voilà, que vous avez cité, ou comme c'est maintenant le cas de la Syrie qui n'est pas encore partie au statut de la Cour pénale internationale. Donc là, ce qu'il faut attendre, c'est tout à fait une résolution du Conseil de sécurité, et donc à nouveau un organe politique qui doit décider si les enquêtes vont être menées à bien ou pas. Et donc c'est pour ça que je dis devrait lutter contre l'impunité, mais pour l'instant, si on va voir en fait toutes les affaires qui sont devant la Cour, même toutes les situations qui sont devant la Cour, ce sont des situations du continent africain. Et en fait, c'est une sélection darwinienne contre les États, donc au détriment des États qui ont un système judiciaire très, très faible.
Merci beaucoup.
La justice des hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main, telle une poissonnière qui pèse les anguilles, raide comme son nom devant les citoyens. Si seulement elle avait un peu plus de sagesse, ou la bonté gouailleuse des femmes du vieux port, je ne craindrais pas tant cette triste maladresse qui arme le tricheur en dépit de ses torts.
On continue avec le diplôme de ce mois de novembre, avec quand même une question très importante. Quand est-ce que ce pays va se réveiller? Quand est-ce qu'on va aller de l'avant? Il y a 30 ans qu'aux États-Unis, tous les magasins sont ouverts le dimanche. Voilà ce que disait Monsieur Séguéla au JT du 13h sur Antenne 2 le 14 mai 1991. Avec Gilles Balbastre, on va parler du travail du dimanche. On sait l'enjeu capital, fondamental que ça constitue pour notre pays. On s'est passionné pour cette histoire. Ces temps derniers, il y a d'autres histoires qui sont venues par-dessus. Mais enfin, c'est toujours là. Et selon Gilles Balbastre, dans le diplôme, cette histoire n'est pas nouvelle, pas entièrement nouvelle. Gilles.
Quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que ce débat a été imposé grosso modo depuis une vingtaine d'années, depuis la fin des années 80, toujours de la même façon. Moi, j'y vois quand même un peu d'espoir, c'est que si ça fait 20 ans qu'on fait un copier-coller sur le travail le dimanche, et on a vu, effectivement, là, il y a une quinzaine de jours, la force et la pugnacité de certains médias pour aller vers ce travail le dimanche ou ce travail de nuit, c'est que le combat n'est pas gagné pour eux. C'est une valse à trois temps, grosso modo. Premier couplet, premier temps, une grande enseigne enfreint la loi et ouvre de force le dimanche. D'accord. Deuxièmement, ils se font à chaque fois effectivement fermés par la loi, puisque la loi dit qu'il faut pas ouvrir au dimanche, donc ils enfreignent la loi, mais qu'importe qu'ils soient condamnés, puisque ils mettent en marche la machine médiatique qui va aller dans un certain sens. Ils imposent un débat qui est pas forcément le débat du moment, et derrière, effectivement, les médias entrent en scène. Troisième mouvement, face effectivement à ce battage, arrive, on pousse le lobbying politique et des lois sont faites pour détricoter un peu plus le travail le dimanche. Voilà un peu les étapes qui sont faites. Alors cette fois-ci, c'était intéressant parce que ça n'a pas commencé avec le travail du dimanche, ça a commencé avec le travail de nuit, avec Sephora. Alors ce qui est délicieux, c'est qu'on s'aperçoit que Sephora appartient à LVMH, LVMH appartient à Bernard Arnault, et Bernard Arnault possède les Échos. Et là, au miracle, on voit que les Échos étaient à la tête, effectivement, de cette volonté que les gens travaillent, enfin, de cette volonté, excuse-moi, de cette liberté pour les gens de travailler la nuit.
Voilà.
Alors, on a un certain Nicolas Barré, qui est directeur délégué de la rédaction des Échos, mais on le retrouve sur Europe 1. Europe 1, qui a été une chaîne de radio, qui a été à la tête aussi de cette lutte pour le travail du dimanche, qui était tenue par Arnaud Lagardère. Et on le retrouve aux 19h du Public Sénat, au Club d'économie sur LCI, au Temps de l'économie sur Radio Classique. Et on voit effectivement l'onde de résonance de ces éditorialistes des Échos, hein, qui sont à la tête du combat.
Édito Écho.
Nicolas Barré, bonjour.
L'ouverture le dimanche, c'est terrible, vous vous rendez compte ?
Europe 1.
Ça risquerait de créer des emplois.
24 septembre 2013.
Dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs, l'idée n'est pourtant pas totalement absurde. Eh bien non, régulièrement, les mêmes syndicats attaquent en justice les magasins qui ouvrent le dimanche, jour où pourtant des millions de salariés travaillent déjà. Un chiffre, l'ouverture des grands magasins, ne serait-ce que 15 dimanches par an, permettrait de créer en net 20 000 emplois. C'est l'équivalent de 7 fois l'usine PSA d'Aulnay qui emploie 3 000 personnes. Voilà de quoi on se prive.
Il y a toute une campagne actuellement mise en place par ces médias, effectivement, soutenue par le camp patronal, par le MEDEF, etc., contre, et il le dit très bien, la fiscalité, le travail le dimanche, etc. Là, on voit vraiment le MEDEF, les patrons, derrière une presse qui matraque certaines batailles actuellement en essayant de mêler le peuple. Moi, je fais remarquer simplement que ces tensions sociales, à chaque fois qu'elles soient fiscales ou sur le travail du dimanche, ça ne concerne que quelques dizaines de salariés. Les salariés qui ont manifesté pour le travail du dimanche étaient au maximum 10, 20, 30 ou 100, 200. Ça n'a rien à voir avec les raz-de-marée quand on s'est exprimé contre l'allongement des retraites, qui était 2, 3 millions, ouais. Et qui était systématiquement contrés par des débuts de JT, de TF1, de France 2, d'Europe 1, par la gêne qu'occasionnaient effectivement ces manifestants contre les autres citoyens. Qu'est-ce qui se passe derrière ce combat-là ? C'est le combat du droit individuel, du contrat contre la loi. Bien sûr que ça intéresse les patrons, qu'une poignée de gens, pour des tas de raisons, qui n'est jamais exprimée dans les reportages, préfèrent travailler le dimanche. Ils préfèrent travailler le dimanche, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez la semaine, c'est parce qu'ils ont des pressions, etc. Et là, on voit effectivement, comme disait Karl Gazi, le responsable CGT de la Fédé Commerce de Paris, c'est qu'il y a un combat important. C'est la loi contre le contrat. C'est l'intérêt individuel, comme s'ils pouvaient avoir un intérêt individuel qui l'emportait sur la majorité. C'est pas parce que moi, j'ai envie de travailler le dimanche que je dois imposer à tout le monde de travailler le dimanche.
Gilles, vous n'avez rien compris. Il s'agit de créer des emplois. Oui. On l'a vu avec Jean-Baptiste Mallet. La question, c'est l'emploi. Alors évidemment, un chercheur, un intellectuel comme ça, il est critique, mais ces gens sont tellement contents de travailler. Le souci de ces économistes, de ces journalistes, c'est quand même d'abord et avant tout l'emploi.
Oui, alors ça, d'abord, il n'y a aucune étude qui a prouvé que de travailler le dimanche ou de travailler la nuit favorisait l'emploi. Il y a même des études qui prouvent le contraire. Comme par exemple le fait que les chiffres qui sont avancés souvent, 20-30% de chiffre d'affaires fait le dimanche ou la nuit. Totalement des chiffres qu'on vérifie pas, qu'on peut pas vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi par exemple les sondages qui ont été mis en place. Alors les Français, l'ouverture des magasins le dimanche, BVA, iTélé début octobre. Alors, arrive en premier dans le sondage la propension à travailler le dimanche si le salaire est doublé et si est mis en place un repos compensateur. 63% oui des Français, 35% non. Quand on s'aperçoit, quand on gratte, de plus en plus de Français, par exemple, travaillent le dimanche sans avoir de repos compensateur et sans doubler le salaire. Moi, je vous montre l'exemple dans l'article que des salariés d'un Auchan City qui s'est ouvert à Tourcoing travaillent 7 jours sur 7 avec des repos qui sont étalés la semaine comme pas 2 jours de suite, sans compensation le dimanche. Sans compensation. C'est devenu courant que des salariés travaillent le dimanche sans compensation. En Grande-Bretagne, le travail du dimanche maintenant qui est admis, c'est un jour comme les autres, il n'y a plus de compensation. Mais c'est ce qu'on met en premier. On met effectivement proportion au travail du dimanche, si le salaire est doublé, c'est mis en place un repos compensateur. On pourrait dire aussi, si on vous offre une Ferrari, si on vous propose une semaine de vacances à Los Angeles, et si vous gagnez automatiquement au loto sans tirer, sans gratter. Effectivement, alors là, c'est 99% des Français, je viens de faire ce sondage ce matin, sont d'accord dans ces cas-là pour travailler le dimanche. C'est une exclusivité, vous l'avez. Par contre, quand on s'aperçoit, une autre question, vous, personnellement, seriez-vous d'accord pour travailler régulièrement le dimanche. Et quand on parle plus de salaire doublé et de mise en place de repos compensateur, c'est 56% des Français non et 43% oui, malgré le battage pour travailler le dimanche. Alors ça donne quoi dans la presse? Eh ben des titres comme ça. Travailler le dimanche, le 8 mai des Français. Les Échos. Ouais, je veux dire, ils savent pas lire, moi. C'est non, c'est pas oui. Hein. C'est comme assez rigolo qu'ils mettent le 8 mai en premier. Travaille le dimanche, les Français partagés, le Figaro. Mais non, ils sont pas partagés, puisqu'ils sont à 56%. Non. Sondage, le travail du dimanche divise les Français. Oui, mais 56% pour le non. Et alors, un peu plus focus, c'est les Français prêts à travailler le dimanche, pour interrogation. Ben non, puisque c'est la preuve que le sondage est non. Et ça, c'est France Inter, dans sa page internet du journal du 5 octobre du 19h. Excusez-moi, cher Daniel, je tape encore un peu sur votre radio, mais c'est pas la pire par rapport, effectivement, à Europe 1, RTL.
Ouf.
Dominique Seux des Échos, bonjour Dominique.
Bonjour Patrick.
Votre édito ce matin, cette révolte sourde contre les institutions.
France Inter.
Parce qu'il y a des points communs entre le ras-le-bol fiscal et le ras-le-bol dominical.
30 septembre 2013.
Qui s'exprime à propos de la législation sur le travail du dimanche ou de nuit. Les deux montrent que cette rentrée est atypique sur le plan social et politique. Septembre n'a pas été marqué par des grèves, des conflits classiques, des manifestations. Les tensions sociales s'expriment autrement, révèle autre chose, une sorte de révolte contre la loi, contre ce qui vient d'en haut, contre l'autorité. Eh bien, résultat, la désobéissance devient presque un acte de bravoure.
C'est une guerre idéologique.
Alors, c'est une guerre idéologique. Moi, ce que j'ai aussi noté, c'est que vous avez effectivement les cadres dirigeants, les éditorialistes, les présentateurs vedettes de ces grands médias qui ont plongé naturellement pour le oui au travail le dimanche. Après, vous avez les salariés et les journalistes de base qui, eux, c'est un peu différent. Là, on rentre dans la dérégulation du travail des journalistes aussi, qui doivent aller de plus en plus vite. Et là, on voit que ces grandes entreprises, Leroy Merlin, Castorama, ont mis en place des batteries de conseillers, hein, de communication, de bonne communication, qui ont formé des salariés, qui leur ont fait même des slogans, hein, Yes Weekend. Je veux dire, c'est pas un salarié lambda de Castorama. Et excusez-moi, j'ai pas de mépris pour les salariés de Castorama qui vont inventer un tel slogan. C'est des boîtes de communication payées par Leroy Merlin Castorama qui ont drivé les salariés qui voulaient soi-disant travailler le dimanche. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Et qui leur ont inventé ce genre de slogan. Les journalistes qui doivent aller vite, qui doit aller tout de suite et rendre en une heure ou deux le reportage. Eh ben, c'est beaucoup plus facile de trouver effectivement ces salariés qui sont offerts par le patron. Vous arrivez, vous êtes journaliste et vous avez tout de suite que trouver une caissière de Monop qui travaille à 23 heures, qui a pas envie, qui est forcée et qui veut pas parler. Donc il va falloir 3-4 jours ou 5 jours pour la trouver. Et ça, impossible de faire des enquêtes comme ça maintenant. Je pense que le mouvement social, il est assez vaste. Il est bien sûr salarial, syndical, mais aussi catholique. Hein. Les catholiques ne veulent pas travailler le dimanche. Il y a une interview délicieuse du porte-parole des évêques français qui s'appelle Monseigneur Poitevin, ou Poitevin, enfin, Poitevin, excusez-moi, qui était chez Thomas Soto, le présentateur d'Europe 1 de la matinale. Il lui pose des questions pour aller, bien sûr, au travail du dimanche. Et les gars, ils résistent, mais ils résistent pas sur le point catholique, justement, du dimanche, mais sur le point économique, en disant, c'est pas prouvé, le gars, en plus, il s'était renseigné, c'est pas prouvé que ça crée de l'emploi, etc. Alors, Thomas Soto est complètement, il sait plus quoi faire, parce que c'est un journaliste, bon voilà, je sais pas combien il a de niveau de QI, mais lui, grosso modo, un archevêque, c'est le point de vue catholique, et donc il s'attendait pas que l'autre aille sur le point de vue économique, donc il est un peu, et le monseigneur dit, mais et les gens se rencontreront où le dimanche? Et Thomas Soto dit, mais à Castorama. C'est quand même là extraordinaire de la part d'un présentateur d'Europe 1. Voilà, sa solution, c'est que les gens, le dimanche, se rencontrent à Castorama ou au Leroy Merlin, c'est formidable.
Jean-Baptiste Mallet.
Parce qu'une religion en remplace une autre. La religion dominante, c'est aujourd'hui la religion de la marchandise. Donc tout ça est très ritualisé. Je trouve ça assez symbolique et fort de voir que le dimanche, qui était donc jadis le jour du Seigneur, est aujourd'hui, doit devenir aujourd'hui celui de la marchandise.
C'est ce que dit Nicolas Barret, toujours le directeur délégué de la rédaction des Échos, hein, qui est à la matinale d'Europe 1, qui dit le soir, à l'heure du prime time, citoyen Thomas, hein, c'est Thomas Soto, puisqu'il est sur Europe 1, ce fameux Thomas Soto, en vertu des lois de la République, vous avez le droit de consommer de la télé, mais pas de faire du shopping.
Merci à tous, merci.
C'était les débats du Diplo, un entretien de Daniel Mermet avec Jean-Baptiste Mallet, Olivier Pironet, Francesca Maria Benvenuto et Gilles Balbastre. À la technique aujourd'hui, David Federman et Florent Layani. Montage Jonathan Duong, une émission réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ?
Julien Steinbrücker, donc je suis le coordinateur de l'événement qui se passe ici. Voilà, en fait, c'est un événement qui a lieu tous les ans, le 17 octobre, pour la Journée mondiale du refus de la misère. Et ici, l'événement qui se passe au Trocadéro à Paris, c'est un des événements parmi beaucoup qui se passe en France, dans beaucoup de villes de France et dans le monde entier.
C'est bizarre de se dire que en une journée, on éradique la misère.
Alors, en une journée, on n'éradique pas la misère, mais en une journée, on représente ce combat qui est mené toute l'année. Et on le fait savoir.
Vous le menez toute l'année ?
Oui, oui. On travaille principalement ici pour une association qui s'appelle ATD Quart Monde et qui lutte contre l'extrême pauvreté, en fait, sur différents aspects, à la fois sur l'aspect politique et en même temps en vivant avec les personnes qui vivent des situations difficiles, en fait.
Bonjour à tous et bienvenue donc sur le Trocadéro, face à la Tour Eiffel, pour cette journée de lutte contre la misère ou la pauvreté ou la précarité.
Et, c'est la journée mondiale du refus de la misère.
C'est la journée mondiale du refus de la misère. Mais vous gagnez votre vie à ATD Quart Monde ?
Oui, je suis salarié de l'association.
Et ça paye bien ?
Ah non, ça paye pas très bien, pour être tout à fait honnête. Mais bon, voilà, il y a de quoi vivre, quoi.
J'imagine que c'est un choix de votre part, quoi.
C'est un choix de ma part, oui.
Et vous avez fait quoi comme études pour travailler chez ATD Quart Monde ?
Alors, j'ai absolument rien fait qui va dans le sens d'ATD Quart Monde avant. J'étais technico-commercial. Et j'ai travaillé pendant pas mal de temps en tant que bénévole pour ATD. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce tournant, en fait. Voilà. Et ça fait à peu près un an que je travaille pour l'association. Après, c'est très personnel, mais c'est une question de donner un sens à ce qu'on fait. Voilà.
Pourquoi on a choisi le 17 octobre ?
Ça, c'est une grande question, mais le premier 17 octobre, ça a été en 1987, et ça a été choisi parce que c'était un samedi, que ça tombait bien avec la météo. Mais voilà, en fait, c'était pour les... Attends, c'était en 57, pour les 30 ans du mouvement d'ATD Quart Monde. Et après, bon, ben, c'est devenu plus, partenarial avec beaucoup plus d'associations, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà.
Merci. Je laisse Julien pour retrouver des gens qui sont tout en bas.
Caritatif, c'est un vestiaire. On est là pour les aider, pas pour autre chose.
Et ceux, si eux, ils veulent aider aussi, c'est bien, non ?
Ah oui, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait le jour où on a des violents qui viennent, des alcooliques ou des gens qui puent ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les prend quand même ?
Pourquoi pas ? C'est vachement beau ce qu'ils font, hein ? La chorale, c'est super beau.
Mais
bon,
c'est...
Bon, là, attention. C'est bon. Non, il y a...
C'est pas dur de répéter avec les chants à côté.
On est habitué à répéter dans des conditions.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici ?
Bah ici, c'est la grande journée du refus de la misère d'ATD Quart Monde. Et en fait, voilà, nous, on a accepté de venir jouer une ou deux scènes sur les discriminations sociales pour eux ce soir.
Mais vous êtes qui, vous ?
Mais nous, on est une compagnie de théâtre qui s'appelle Nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Et on pratique le théâtre de l'opprimé.
Ça veut dire quoi, le théâtre de l'opprimé ?
Oh, le théâtre de l'opprimé, c'est un outil qui vient du Brésil des années 60 comme une méthode de résistance à la dictature par un monsieur qui s'appelait Augusto Boal. Voilà, et puis qui a migré, qui est arrivé en France il y a longtemps maintenant, dans les années 80. Et on a repris avec lui, on a appris son outil avec lui et maintenant on le pratique.
Et alors concrètement, quelle est la différence entre votre compagnie et une autre compagnie ?
Ben, c'est le théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire que nous, on fait du théâtre pour parler des problématiques sociales et pour permettre aux gens de rechercher comment, quelles stratégies ils peuvent, eux, mettre en place pour essayer de faire avancer le schmilblick, pour gagner, quoi, pour lutter.
Et vous êtes metteuse en scène, vous êtes chef de compagnie ?
Ben, un peu les deux, un peu metteuse en scène, un peu chef de compagnie, un peu femme de ménage, un peu militante, comme tous les gens de la compagnie. Hein.
Et alors, vous êtes comédienne ?
Oui.
Et vous travaillez donc à l'année pour la compagnie ou ouais. Vous faites des choses à côté ?
Non, on fait que ça. C'est notre outil de lutte, nous.
Voilà. La scène ?
Bah, la scène et cet outil, le théâtre forum, ouais, le théâtre de l'opprimé, c'est pour changer le monde, donc on est là pour ça, en fait.
Et vous jouez tout le temps dans la rue ou il y a des moments où vous êtes dans des vrais théâtres ?
Non, des fois, dans des vrais théâtres. On est même des fois dans des vrais lieux, les centres sociaux, les foyers, c'est des vrais lieux, ça aussi.
Et alors, qu'est-ce que vous jouez, là ?
Là, on joue une scène qui se passe chez un médecin autour de la thématique de la CMU, chez un dentiste. Voilà,
sur CMU, c'est la couverture médicale universelle.
Voilà, donc de ceux qui prennent pas les gens à la CMU.
Vous êtes tout de suite rentré dans une compagnie comme ça ou vous étiez compagnie plus classique avant ?
En fait, les parcours sont très différents. Moi, j'avais fait un peu de théâtre avant, mais quand j'ai rencontré Fabienne Rugel jouer un spectacle qui s'appelait Les Cramés, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire et rien d'autre.
Vous pouvez expliquer pourquoi c'est ça et rien d'autre ?
Parce que c'est du théâtre et que j'aime ça. J'aime être dans des personnages, j'aime voilà, être sur une scène et jouer des histoires. Mais là, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'en fait, c'est des histoires vraies, quoi. Et c'est des histoires où les gens ont la possibilité d'agir dessus, puisque c'est des histoires qui se passent mal. Et le public peut venir pour essayer de transformer ça. Donc, ça m'intéresse doublement.
Et les spectateurs peuvent monter sur scène pour...
Oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est ça la proposition. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que c'est un outil d'entraînement pour le futur. Donc, en fait, on joue des scènes qui ne se passent pas bien. Et le spectateur monte sur scène pour... prendre la place du personnage avec qui il est en solidarité pour essayer de transformer la situation. Voilà, l'idée c'est de sortir un peu de l'isolement quoi.
Je peux avoir votre prénom ?
Clara.
Et si on veut en savoir plus, c'est pas compliqué, compagnie-nage.fr.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Gécorénov, j'économise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Si en hiver vous payez d'importantes factures de chauffage pour avoir une maison où il fait toujours froid, eh bien ça va changer. Aujourd'hui, vous pouvez faire financer jusqu'à 80% de vos travaux d'économie d'énergie grâce à des aides publiques. Pour réduire vos prochaines factures, allez sur rénovationinfoservices.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe.
Gécorénov, j'économise. 0810 140 240.
C'était un message du gouvernement.
France Inter et le Théâtre de la Ville avec le Festival d'Automne à Paris présente du 6 au 23 novembre The Old Woman de Daniel Carms, mise en scène par Robert Wilson. Une rencontre au sommet autour de la vie et de l'œuvre du grand poète russe qui réunit sur scène deux monstres sacrés, le danseur et chorégraphe Mikhaïl Baryshnikov et l'acteur Willem Dafoe. Retrouvez The Old Woman dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Thomas Fersen.
Je ne cherche jamais la querelle.
Venez découvrir les nouvelles chansons de Thomas Fersen le 26 novembre au Casino de Paris.
Je n'ai le temps contre personne.
Et en tournée dans toute la France.
J'aime la pop sale anglo-saxonne.
Retrouvez Thomas Fersen
de temps en temps, une petite bagarre.
Dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Thomas Fersen en concert avec France Inter.
À suivre, Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, Marc Machin a été placé en garde à vue ce matin. Il est suspecté d'avoir provoqué un esclandre dans une école parisienne, dans l'école maternelle en fait de ses beaux enfants où il les avait conduits. Il aurait tenu des propos homophobes au directeur qui a dû appeler la police pour le maîtriser. Le directeur en question a porté plainte. Il y a tout juste un an, Marc Machin était acquitté d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Un mois de prison avec sursis requis contre les 5 militants CGT de Rouen. Il comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de la ville pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de leur empreinte ADN. Plusieurs milliers de militants CGT venus de toute la France ont manifesté leur soutien ce matin. Le jugement du tribunal correctionnel de Rouen a été mis en délibéré au 17 décembre prochain. Après les sénateurs hier, les députés ont à leur tour observé une minute de silence cet après-midi en hommage aux deux journalistes de RFI tués ce week-end à Kidal, au nord du Mali. Leurs corps ont été rapatriés en France ce matin. Au Mali, 150 Français sont eux arrivés en renfort à Kidal hier soir, des soldats français. Difficile de s'entendre sur le cas syrien à Genève aujourd'hui. Les divers acteurs du conflit ont affiché des positions radicalement opposées lors de la réunion préparatoire à la conférence de paix internationale sur la Syrie. Le principal blocage réside sur le devenir de Bachar el-Assad pendant la période de transition. Certains réclament des garanties sur son départ. Hier, le ministre syrien de l'information a averti que Damas n'irait pas à la conférence si on demande à Bachar el-Assad de remettre le pouvoir. En tout cas, de l'avis des dirigeants russes, la conférence Genève 2, elle, n'aura pas lieu avant décembre. Pas question pour Bruxelles de revenir sur sa décision de stopper les aides aux exportations de volailles. La Commission européenne campe aujourd'hui sur cette position. Or, c'est ce que dénoncent les volaillers de Bretagne, dont Tilly Sapko, qui a mené une action à la sous-préfecture de Morlaix hier. Pour apaiser les tensions, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, avait promis hier d'évoquer leur cas à Bruxelles. Mais selon le porte-parole de la Commission pour l'agriculture, aujourd'hui, le secteur volailler européen a un potentiel énorme à l'exportation et une bonne compétitivité. Ces aides ciblées européens ont été décidés en 2010 et imposés progressivement. Le monde de la volaille ne va donc pas bien en Bretagne, celui de la presse en France non plus. Au moins 300 postes de journalistes seront détruits cette année, selon le baromètre aujourd'hui de l'emploi journaliste 2013. C'est certes moins que l'an dernier, il n'empêche aujourd'hui le groupe Centre France, qui publie 8 quotidiens et une douzaine d'hebdomadaires, a annoncé un plan de restructuration. 230 emplois sont menacés. Pas de Coupe Davis pour Victor Troïki, le joueur de tennis serbe ne jouera pas la finale. Décision aujourd'hui prise par le tribunal arbitral du sport de Lausanne, qui a tout de même réduit à un an la suspension de Victor Troïki pour dopage. Le joueur, ancien 12e joueur mondial à l'ATP, avait été sanctionné pour ne pas avoir fourni un prélèvement sanguin suite à un prélèvement urinaire lors d'un contrôle antidopage. C'était sur le tournoi de Monte-Carlo le 15 avril dernier. Vous écoutez France Inter, il est toujours 16h03.
Vendredi 15 novembre, Stephen King s'empare du 7-9 de Patrick Cohen à l'occasion de la parution de Dr. Sleep, la suite de Shining. Vous êtes lecteur de Stephen King? Posez-lui vos questions sur la page Facebook de France Inter.
Pas beaucoup écrit aujourd'hui.
Les plus kingiennes d'entre elles seront retenues,
oui,
et leurs auteurs les poseront en direct au maître du suspense.
Bien joué avec nous.
Et le soir 20h, Stephen King revient dans Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert.
France Inter.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure, dans une heure, pour de nouvelles informations.
Voilà, à tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Hier, je vous ai parlé de ce beau coffret concernant l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Toute une histoire, j'ose le dire, parce que d'abord, c'est pour célébrer les 50 ans de la salle emblématique imaginée par l'architecte Hans Scharoun à Berlin, et puis le centenaire du tout premier enregistrement d'une symphonie complète, la 5e symphonie de Beethoven, sous la baguette d'Arthur Nikischer. Je vais vous épargner ce document qui est assez lointain, c'est le moins qu'on puisse dire, il faut vraiment tendre l'oreille. Il y a des choses qui sont plus de l'histoire, de l'archéologie musicale, en quelque sorte, que de la passion, qu'on a tous pour la musique, tous ceux qui écoutent cette émission. Donc on va aller directement aux premiers enregistrements audibles, c'est-à-dire, par exemple, en 1953, le grand Furtwängler, qui dirige une mémorable 4e symphonie de Robert Schumann. Alors vous allez entendre que ce mouvement qui est noté Lebhaft, c'est-à-dire vivant, est assez retenu au début de l'extrait que je vous propose. Et puis l'exaltation va monter progressivement, il y a une sorte d'engagement incroyable de Furtwängler et de tout l'orchestre. Oui, il y a d'autres façons de faire. Wolfgang Zawalisch, par exemple, a donné une version que je préfère encore, mais enfin, il faut quand même tendre l'oreille sur cette gravure tout à fait historique.